Podcast, la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, round 33, le réseau Isère. Enfant disparu et tué en Isère, des dossiers sabotés pour l'interrogation. En l'espace de 16 ans, 11 meurtres et disparitions d'enfants ont eu lieu en Isère, dont Grenoble est le chef-lieu. Seuls deux de ces meurtres auraient, selon la justice, été résolus, et les dossiers de deux meurtres viennent d'être enterrés. La justice dit avoir exploré toutes les pistes, ce qui ne semble pas être l'avis des familles. En tout cas, comme dans le dossier des disparus de Lyon, je vous renvoie à un podcast consacré au réseau Lyon, comme dans l'affaire Allègre, je vous renvoie au podcast consacré à l'affaire Allègre à Toulouse, et bien d'autres, on a pu constater quelques dysfonctionnements assez incroyables dans des affaires aussi graves. Entre 1980 et 1996, 11 enfants âgés de 5 à 13 ans ont été tués ou portés disparus dans ce département d'1,2 million d'habitants aujourd'hui. On est dans la région de Grenoble, pas loin de la Suisse et de l'Italie, tout près de Lyon. Pour situer le tableau, pendant cette période, de 83 à 95, le maire RPR, anciennement UMP Les Républicains, de Grenoble, était Alain Carignon, dont on se rappelle des démêlés avec la justice. En 86, Carignon, élu député, entre dans le gouvernement Chirac et de 85 à 97, il est président du conseil général de l'Isère, donc conseil départemental. Grenoble, c'est aussi le secteur où a eu lieu une partie de l'affaire du Temple solaire, avec un des trois suicides collectifs qui s'est produit dans le Vercors, et c'est là que l'affaire a été instruite, entre guillemets. Aujourd'hui, la mafia sicilienne semble bien implantée à Grenoble, avec quelques débordements tels que l'assassinat à l'aide d'une carabine de chasse à lunettes d'un détenu dans la cour de la prison juste avant qu'il n'aille voir le juge en 2008. Les meurtres et les disparitions. Officiellement, on en comptabilise 9, mais certains ont été oubliés, semble-t-il, des bilans officiels. Philippe Pignot, disparu le 25 mai 1980 à la Morte-sur-Isère à l'âge de 13 ans. On n'a jamais retrouvé son corps. Ludovic Janvier, disparu le 17 mars 1983, 3 jours avant le 20 mars, date de rituel satanique, à Saint-Martin-des-Hères, donc dans la banlieue de Grenoble, à l'âge de 6 ans et demi. Un peu avant 20 h, il était parti avec ses deux frères chercher un paquet de cigarettes à 200 mètres du domicile familial. Il est enlevé devant plusieurs témoins par un homme avec un casque de moto sur la tête, en bleu de travail et portant des chaussures de sûreté. Cet homme, en outre, avait l'air gentil et connaissait le nom des enfants. Les enfants ne se sont pas méfiés et quand il leur a demandé de l'aider à chercher son chien, la famille de Ludovic s'était installée en Isère depuis la Sarthe 3 semaines plus tôt. Le corps de Ludovic Janvier n'a jamais été retrouvé. Un non-lieu a été rendu, mais le dossier de Ludovic, comme 4 autres, a été perdu, puis retrouvé en 2009. Je cite: Il faut qu'un avocat saisisse un ministre pour lui signaler qu'il y a un problème au tribunal de Grenoble pour que subitement il retrouve les dossiers perdus, a souligné la sœur de Ludovic devant France Soir. Des ossements d'enfants retrouvés dans le Vercors en 85 remontent à l'époque de la disparition de Ludovic, mais n'ont pas été identifiés. Alors on va quand même faire une parenthèse. Donc sur les dossiers perdus, je vous renvoie à l'affaire de Lyon, où il y avait 99,9% des dossiers de non-lieu sur des dizaines d'années qui avaient disparu du tribunal. Donc ça, c'est une pratique connue. Deuxièmement, on peut parler un peu plus des disparitions d'enfants. Donc il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 50 000 enfants mineurs de 15 ans et adolescents, donc de moins de 18 ans, qui disparaissent chaque année. L'immense majorité de ces disparitions inquiétantes sont des fugues d'adolescents, retrouvés par retrouvés. Et finalement, quand on reprend ces noms et ces listes entre 1 et 2 ans plus tard, on se rend compte que la plupart sont revenus au foyer ou ont été relocalisés, entre guillemets, parce qu'ils ont fugué et qui s'émancipent de leurs parents de manière unilatérale. Mais sur ces 50 000, il y en a toujours à peu près 1 000, 1 000, 1 200, ça dépend des années, 800, 1 000, 1 200, qui ne sont jamais retrouvés. Mais jamais du tout. Et sur ces 1 000, en fait, on a du mal à savoir quel est l'âge. Par exemple, on aimerait bien avoir la proportion de ces 1 000 qui sont des gens de moins de 10 ans. Parce que me dire qu'un enfant de 8 ans, il s'émancipe de sa famille et qu'on le retrouve dans un squat, ça m'étonnerait, hein. Donc ça, c'est la première chose. Nous, on a fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir ça. On n'a pas réussi à l'obtenir. Les seuls chiffres qu'on a pu avoir, ce n'était pas par le ministère, c'était par un député qui, lors d'un colloque, avait réussi à faire cracher les chiffres au ministère, déjà pour avoir ces 1 000. Donc la proportion des mineurs de 15 ans, on l'a pas. L'âge, on l'a pas. Nous, on aimerait bien avoir la localisation. Évidemment, puisque si il y a beaucoup de mineurs qui disparaissent autour d'une certaine ville, c'est peut-être qu'il y a un mec ou un réseau qui est en train de choper des gamins dans la rue à tour de bras. Et on a des témoignages de pédophiles qui sont très bien organisés et qui racontent exactement ce genre de choses, des carrières d'enlèvement d'enfants, qui les revendent à des réseaux une fois qu'ils les ont utilisés ou qu'ils les tuent selon leur humeur du jour. Donc voilà, il y a un gros souci sur la transparence par rapport à ces disparitions et également, du coup, par suite, par rapport aux enterrés sous X, c'est-à-dire qu'on retrouve des corps tous les ans, on en retrouve à peu près 1000 également, des corps enterrés sous X d'adultes et d'enfants, là pour le coup, pas uniquement des mineurs de 18 ans. Et en fait, on n'arrive pas à savoir quelle est la proportion de ces enterrés sous X. Donc, on retrouve, mais qu'on n'arrive pas à identifier. Alors aujourd'hui, peut-être qu'avec la méthode ADN, ça s'est peut-être un peu amélioré. Mais néanmoins, il n'y a pas de communication là-dessus par le ministère. On n'en trouve pas les chiffres. Et surtout, donc, on ne trouve pas les chiffres sur ces 1000 de combien il y a de mineurs. Ce qui est quand même facile à savoir, puisqu'ils ont des os de petite taille par rapport aux adultes. On peut savoir beaucoup de choses avec les dents, etc. Et pareil, on n'arrive pas à savoir où sont retrouvés les enterrés sous X. Donc c'est quand même des indices importants qui permettraient, si la police et les forces de l'ordre avaient des unités spéciales qui étaient en charge de faire des enquêtes contre les réseaux pédophiles en acceptant que ça existe, qui pourraient tout à fait aider à localiser ces réseaux, à comprendre mieux les filières, à comprendre mieux comment ils se débarrassent des corps, etc., leurs pratiques avec des autopsies, etc., etc. Voilà. Évidemment, sans surprise, évidemment, sur ces choses-là, on est au point mort. Voilà. Nous, on va essayer on avait essayé au niveau départemental d'avoir des chiffres, et puis c'était fini dans le tiroir, d'après la secrétaire, hein, dans le tiroir de la préfète, et puis il aurait fallu y aller pour montrer patte blanche, pour peut-être qu'on puisse avoir ces chiffres, alors que c'est des chiffres qui sont faits par les services publics et qui devraient être ouverts à tous. On va essayer de saisir la CADA, qui est une commission qui permet théoriquement de pouvoir accéder à des chiffres publics. Néanmoins, à partir du moment où en fait c'est des statistiques qui sont dans des fichiers et qu'il faut quand même avoir un travail pour les traiter et pour les extraire, c'est pas comme dire ah, cette commission d'enquête, elle n'a pas été publiée, vous devez nous la donner. C'est pas juste un rapport qu'il faut sortir, c'est du travail qu'il faut faire. Et du coup, voilà, on a peu d'espoir là-dessus, mais on va essayer. Voilà, fin de la parenthèse. Grégory Dubrulle est enlevé en bas de son domicile à Grenoble le 10 juillet 1983, à l'âge de 7 ans. Il est retrouvé vivant le lendemain dans une décharge à Voreppe, à 40 km de Grenoble environ. Je cite, il faisait jour tard, j'avais 7 ans et comme tous les gamins, j'allais jouer dehors. Je me vois encore assis sur les marches au pied de l'immeuble, rue Adrien Ricard à Grenoble. Une voiture passe et s'arrête. Le conducteur est un homme, un Européen au teint mat. Il m'a demandé où mène la rue qui est en impasse, a-t-il expliqué aux Parisiens en 2008. Fin de citation. Ensuite, la victime ne se rappelle plus de rien, à part s'être réveillée dans une décharge à Pommiers-la-Placette avec le crâne fracassé. Il a probablement été drogué et sans doute laissé pour mort. Donc là, on comprend mieux, hein, comment ça marche. Alors, petite parenthèse, à un moment donné, il faut quand même se remettre en question. Est-ce qu'en 2020, qui laisse encore traîner ces gamins dans la rue? Qui les laisse aller à l'école à pied? Qui ne réfléchit pas à quel moment il confie ces gamins ou pas? Et évidemment, les seuls qui font encore ça, bah, c'est souvent des gens, entre guillemets, un peu cassos ou issus des classes populaires qui n'ont pas, hélas, la conscience qu'ils vivent dans un monde de prédateurs. Et c'est toujours ces gens-là, du coup, qui vont être impactés. C'est les plus vulnérables. Donc voilà, soyons des parents vigilants, faisons passer le mot, et c'est là qu'on comprend aussi que si tout le monde avait l'information qu'on vit dans un monde comme ça, peut-être qu'il y aurait beaucoup moins d'enfants disponibles pour les prédateurs. Voilà. Alors sachant qu'ils ont d'autres filières, services sociaux, gosses de prostituées non déclarées, enfants clandestins, etc. Mais néanmoins, on peut déjà essayer de juguler cette chose en étant conscient. Fin de la parenthèse. Anissa Ouadi est enlevée en bas de chez elle le 27 juin 1985 à Grenoble à l'âge de 5 ans. Elle était descendue jouer en bas de son immeuble. On retrouve son corps 13 jours plus tard au barrage de Beauvoir. Elle aurait été étranglée, mais n'aurait, selon la justice, pas subi de violence sexuelle. Mais on peut se demander si un séjour prolongé dans l'eau permet de tirer de telles conclusions. Shahrazad Bendouyou disparaît le 8 juillet 1987 au pied de son immeuble à Bourgoin-Jallieu à l'âge de 10 ans. Vers 13 h, elle descend jusqu'au local à poubelle de son HLM et disparaît. La police met plusieurs heures à entamer des recherches. En plus, il considère qu'on n'a plus revu la fillette après qu'elle soit descendue, ce qui est faux, sa sœur l'a vu remonter chercher de l'eau pour sa mère qui se trouvait en bas de l'immeuble. Pourtant, impossible de faire admettre cela à la justice qui a toujours refusé de voir la famille. Impossible également de mettre l'ADN de Charazette dans le FNAEG, donc le fichier national des, je ne sais pas, génétiques, des empreintes génétiques, le fichier qui les recense. Pas d'enquête non plus sur les possesseurs de Renault bleu, comme celle dans laquelle un ami de Charazette a cru la reconnaître après l'enlèvement. Quelques jours après la disparition de Charazette, les gendarmes reçoivent un coup de téléphone anonyme d'une femme qui balance le signalement d'un de ses amis qui l'a appelé pour s'accuser de l'enlèvement de plusieurs fillettes dans la région. Un homme de 44 ans qui aurait fait son service militaire pendant la guerre d'Algérie. Les enquêteurs vont alors interroger l'armée qui identifie 20 anciens d'Algérie correspondant à ce profil, mais seulement une dizaine sera interrogée. En 2003, la famille apprend par hasard qu'une instruction a été ouverte et que l'enquête est close depuis 13 ans. Le dossier prescrit a été rouvert en 2010, en considérant qu'il s'agissait d'une séquestration illégale. Oui, bien sûr. Le dossier a finalement été classé par un non-lieu le 8 novembre 2010. La famille dénonce un scandale, je cite. Les avocats, eux, dénoncent une justice qui n'a jamais accepté de recevoir les parties civiles alors que nous l'avons sollicité à plusieurs reprises, alors que nous estimions avoir des éléments nouveaux à apporter au dossier. Fin de citation. On n'a jamais retrouvé le corps. Alors là, on retrouve plusieurs éléments qu'on retrouve dans plusieurs dossiers. Donc, petite parenthèse. L'homme de main, souvent effectivement issu de l'armée ou, on va dire, des barbouzes ou de milieux un petit peu comme ça. Voilà, donc typiquement des Dutroux, des Fourniret, voilà, des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Fourniret, c'était aussi un ancien d'Algérie, et qui vont servir les réseaux, qui vont avoir peut-être des penchants psychopathiques, alors soit liés à leur expérience de guerre, stress post-traumatique, soit autres, qui sont tenus et qui vont être tout à fait d'accord pour faire ça, ou forcés, mais bon, la plupart du temps, ils sont plutôt consentants pour faire ces horreurs, et dont les réseaux vont se servir. Pour, évidemment, puisque c'est la part la plus risquée du job, de trouver des gosses comme ça. Et puis, le jour où s'il y a un problème avec le réseau, c'est des gens qu'on va balancer et on va dire ce sont des prédateurs isolés, évidemment. Alors que tout va à l'inverse. Sur le fait de ne pas entendre les familles, je vous renvoie à l'affaire de Montreuil, où on a quand même une famille donc avec des abus sexuels sur mineurs dans une école, à moitié, enfin pas à moitié, couvert par la mairie, et où on a une famille qui attend d'être entendue par le juge d'instruction depuis plusieurs années. Hein, donc c'est quand même, quand vous n'avez pas affaire à la justice, vous dites, bon, ben c'est normal, on entend tout le monde, le juge, il va faire entendre tout le monde. Voilà, mais non, pas forcément, vous voyez, c'est quand même incroyable. Alors évidemment, hein, vous imaginez le magistrat, notable et tout, et puis les personnes victimes, donc toujours là, par exemple, issues de milieux défavorisés, d'origine maghrébine, donc tous les a priori sympathiques qu'on peut lier à ça, et puis dire, ah ouais, mais bon, c'est des pauvres gens, blablabla, ça sert à rien de les entendre. On se rappelle très bien de l'affaire Outreau, où là, ça s'est inversé, hein. Dans l'affaire Outreau, c'était des pauvres gens et tout, mais là, on les a entendus, ils ont tout avoué, et puis tout d'un coup, on a retourné l'affaire. Et c'était le juge qui était devenu un psychopathe, hein, et puis les cassos qui faisaient ça. Là, on a dit, ah, mais non, eux, c'est des gens gentils, ils sont acquittés, on leur a filé des centaines de milliers d'euros. Magnifico, je vous renvoie au podcast sur l'affaire Outreau. Allez, continuons. Nathalie Boyer disparaît le 3 août 1988, date d'un rituel satanique, près de son domicile à l'âge de 15 ans. Elle habite Villefontaine, commune de l'affaire Romain Farina, donc je vous renvoie, près de Bourgoin-Jallieu. Elle était d'origine réunionnaise et paraissait plus jeune que son âge. Le lendemain, son corps est découvert par un cheminot sur un sentier près de la voie de chemin de fer à Saint-Quentin-Falavier. Elle aurait été égorgée. Fabrice Ladoux disparaît le 13 janvier 1989, 4 jours avant une date de rituel satanique près de son domicile à Grenoble, à l'âge de 11 ans. Alors sur cette date de rituel satanique, il y a effectivement un calendrier satanique qui existe. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs versions, il faut savoir que les dates peuvent varier d'une année à l'autre en fonction du solstice, des équinoxes, de l'astrologie, etc. Vous y pensez bien que c'est des allumés. Et du coup, nous, on avait fait un article quand même pour essayer de voir statistiquement si ça collait à peu près entre les fêtes satanistes et des pics éventuels, mois par mois, de viols sur mineurs ou d'abus sexuels sur mineurs. Bon, c'était un petit peu probant. Après, au terme de significativité, au niveau statistique, à mon avis, ça passait pas les tests statistiques. Et puis en plus, bah, il aurait fallu avoir On a les statistiques que mois par mois, il aurait fallu les avoir de manière plus précise. Et puis c'est pareil, entre le moment où il se passe quelque chose et le moment, le jour qui est consigné éventuellement dans le fichier de police, c'est le jour où la plainte est déposée et non pas le jour où l'enfant déclare avoir été abusé. Si, c'est cette statistique qu'il faudra avoir de manière précise pour se rendre compte si effectivement y a des pics de viols sur mineurs à certaines périodes, à certaines dates dans l'année. Voilà. Mais on n'a pas évidemment tout ça. Pareil en termes de localisation. Bon, bref. Allez, passons. Fabrice Ladoux disparaît le 13 janvier 1989, près de son domicile à Grenoble, à l'âge de 11 ans. Son corps est retrouvé 3 jours plus tard à 20 km de Grenoble, au fond d'un ravin escarpé à Quai en Chartreuse. Une zone de montagne difficile d'accès sur le même versant que là où on retrouve Grégory Dubrulle. Il a été violé, violemment frappé à la tête et étranglé. En 2010, habitant de la région déjà condamné pour agression sexuelle sur des mineurs dans les années 80, un habitant de la région est fortement soupçonné du meurtre, mais l'ADN l'a innocenté. Alors déjà, on peut se rendre compte qu'effectivement, le mode opératoire est le même, l'endroit où l'enfant est laissé pour mort est le même, on a clairement affaire à soit un serial killer, soit un réseau. Rachid Bouzian disparaît le 3 août 90. Au pied de son immeuble HLM à Échirolles, à l'âge de 8 ans. Il est vu pour la dernière fois par son père vers 19h30 et à 20h, on s'aperçoit de sa disparition. La police intervient 2 heures plus tard et des membres de sa famille retrouvent son corps le dimanche 5 août, roulé dans une couverture dans un garage collectif. Il a été violé avant d'être tué, mais on nous dit que le corps était en état de décomposition avancée et qu'il était impossible de dater la mort. Alors, moi je veux bien, mais enfin bon, disparaît le 3 août, on retrouve son corps le 5 août, ça fait 48 heures. Pas se foutre de la gueule du monde. La porte du garage collectif où l'enfant a été retrouvé était en panne depuis 2 jours, bloquée dans la position ouverte. Dans les semaines suivantes, un voisin, Karim Katefi, 26 ans, est arrêté. Il avoue avoir transporté le corps de l'enfant tué par son frère Kamel à ce moment en Algérie. Finalement, c'est bien Karim qui a été condamné à perpétuité et est mort en prison, encore jeune, et sans qu'on ait cherché s'il avait pu commettre d'autres enlèvements ou meurtres. Sarah Siyad, 15 avril 1991, à Vorep, au nord de Grenoble, à l'âge de 6 ans. Elle aussi disparaît en début de soirée, vers 18-19 h. On la retrouve morte le lendemain, violée et étranglée, dans un bois situé à 200 mètres de son domicile. Sa culotte a été arrachée et les policiers relèvent des traces de sperme sur tout son corps. Mais on a dit que les mouchoirs pliés autour de l'enfant étranglé étaient les seuls indices exploitables. Une empreinte digitale est aussi disponible dans l'affaire Siyad, retrouvée sur un paquet de mouchoirs jetables. L'information judiciaire est close en 1999, faute d'éléments probants, avant d'être rouverte en février 2006, suite à un rapprochement avec le cas de Saïda. Léo Ballet disparaît le 19 juillet 1996, au lac du Fourchu, à l'âge de 6 ans. Il disparaît entre 17h et 19h, alors qu'il est au bord du lac avec son père et ses deux amis de son père. Il s'évanouit dans la nature, alors qu'il rejoint seul son père en train de planter la tente quelques dizaines de mètres plus loin, et qu'il vient de quitter les adultes partis chercher de l'eau. Le dossier a été clos par un non-lieu en décembre 2012. Une Citroën BX immatriculée dans les Bouches-du-Rhône est repérée dans le secteur de l'enlèvement, mais cette piste ne donne rien. Le corps n'a jamais été retrouvé. Plusieurs années après, une chose bizarre est ensuite arrivée à la famille de Léo Ballet. Un usurpateur, Frédéric Bourdin, s'est fait passer pour le petit Léo auprès de sa famille, mais un test ADN a révélé la supercherie au bout de 2 jours. L'affaire a été définitivement close en 2013. Saïda Bersh disparaît vers 16h30 le 26 novembre 1996, près de Cherel, encore à Vorep, dans la banlieue de Grenoble, alors qu'elle fait un trajet d'une centaine de mètres entre son domicile et un gymnase situé à côté. Elle est retrouvée morte 2 jours plus tard, à 1 km de chez elle, dans un canal, étranglée avec son sweatshirt. Elle a été étranglée vraisemblablement dans l'eau, mais l'examen médico-légal ne révèle aucune trace de violence sexuelle. Non loin du corps de la petite Berche, retrouvée au bord du canal à Vorep, un magazine pornographique a été retrouvé. Des similitudes sont vite survenues avec le meurtre de Sarah Siad à Vorep en 91. Les suites. En 2008, 12 gendarmes sont mobilisés en grande pompe pour créer la cellule Mineur 38, destinée à faire un lien entre toutes les affaires d'enfants disparus. Mais très vite, les effectifs sont réduits, les dossiers classés et les familles ne sont toujours pas entendues par la justice. Suite aux pressions menées par des avocats de famille, la justice relance l'enquête sur 9 meurtres ou disparitions en 2010. Suite à la découverte en juin de 3 dossiers perdus, ceux de Ludovic Janvier, Grégory Dubrulle et Charazet Bendouillou, c'est la cellule Mineur 38 qui est chargée de l'enquête. Donc ça rappelle bien la cellule qui avait été créée pour l'affaire Allègre et on sait comment ça a fini. Le 21 juin 2010, trois dossiers d'instruction égarés en raison d'un changement de numérotation lié à l'arrivée d'un nouveau juge d'instruction, ben oui bien sûr, avaient été retrouvés dans les archives du tribunal de grande instance de Grenoble. Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, demande une enquête interne sur les dysfonctionnements de la justice dans les dossiers de ces meurtres et disparitions. En effet, non seulement des dossiers avaient disparu, mais des corps ont carrément été détruits au lieu d'être rendus aux familles. Certains autres corps étaient non identifiés, comme les ossements d'enfants retrouvés dans une grotte du Vercors en 85. Malgré tout, les enquêteurs étaient certains qu'on n'avait pas affaire à un tueur en série et que les meurtres ne sont pas liés. Ben oui. Depuis 2013, un juge d'instruction relance deux dossiers, ceux de Siad et Berche, en envoyant les traces ADN jusque-là inexploitables. Ces analyses mettent en cause un auteur déjà fiché pour usage de stupéfiants en 2008, 2005 et 2008. Âgé de 15 ans et demi au moment du premier meurtre, il avait été entendu comme témoin pour le second sans être inquiété. Proche des frères des victimes, il continue depuis à vivre dans le même quartier. Alors là, juste une parenthèse sur les médecins légistes quand même. Par exemple, on pourra citer le gendarme Jambert qui se suicide au fusil de chasse de 2 balles dans la tête. Bon, c'est voilà le genre de blague, mais à partir du moment où t'as le médecin légiste de ton côté, ben, le mec il dit n'importe quoi et ça passe, hein, il n'y a pas de souci. On pourra citer aussi l'affaire Eliane Kabil. Donc c'est plus sur des adultes, mais là, juste pour vous citer un élément, c'est-à-dire qu'on va retrouver. Donc il y avait un souci sur le corps, sur les trafics de corps, d'organes, etc. Donc de Madame Eliane Kabil, son fils a cherché à en savoir plus. Il a réussi à faire déterrer le cercueil de sa mère. Quand ils ont ouvert le cercueil, il n'y avait pas le corps de sa mère, il y avait des parties de corps d'enfants dans le cercueil. D'accord? Donc là, vous comprenez mieux les filières pour se débarrasser des choses gênantes. Ok, on continue. En juillet 2013, un recoupement ADN mène la justice sur les traces d'un type dont on a prélevé l'ADN suite à une infraction routière en 2005, Georges Pouille. Il avait été vu par plusieurs témoins peu avant la disparition de Saïda Berche, et il est entendu comme témoin par les gendarmes, mais nie avoir vu la fillette. Pourtant, alors que 960 personnes ont été fichées durant l'enquête, les empreintes de Georges Pouille n'ont jamais été prélevées. Je cite, au sujet de l'affaire Berche, il a raconté que Saïda lui avait demandé de lui prêter son vélo, ce qu'il a fait, avant de s'énerver lorsqu'elle a réitéré sa demande. Il l'aura alors frappée à la tête, étranglée avec le sweatshirt qu'elle portait et déposée à proximité d'un canal. Sur la suite, il n'a guère de souvenirs, mais assure qu'il s'agissait d'un accident, explique Le Monde. Mais oui. Il avait alors 15 ans lors du meurtre de Sarah et connaissait les deux familles de Sarah et Saïda, notamment certains de leurs frères. Le dénommé Pouille a été décrit comme un pauvre clampin handicapé, employé dans un centre d'aide par le travail, vivant dans la misère, mais apprécié dans tout le quartier où tout le monde, y compris sa compagne, a été très surpris d'apprendre qu'il avait commis ces deux meurtres. Mais finalement, les médias lui ont quand même trouvé un profil inquiétant. Il aurait admis avoir été présent sur les lieux du crime au bout de sa quatrième audition. Selon la police, l'assassinat de Saïda était en fait une vengeance contre ses frères. Pourtant, la justice n'a pas reconnu la préméditation. Georges Pouille n'a toujours pas été jugé. Pourtant, la presse considère que ces deux crimes sont résolus. Quant aux deux autres meurtres, ceux de Charazette Bendouillou et Ludovic Janvier, resteront irrésolus puisqu'ils ont été classés début novembre par un non-lieu, malgré qu'on n'ait toujours pas retrouvé les corps. Deux dossiers qui faisaient partie des missions confiées à la cellule mineure 38. Je cite, il faut savoir fermer un dossier, a déclaré le procureur. Nous sommes effarés par ces décisions. Les juges ont refusé de les recevoir durant la procédure et de prendre en compte nos demandes d'enquête complémentaire. La justice ne s'est clairement pas donné les moyens d'enquêter, c'est ahurissant, je n'ai jamais vu un tel défaut d'humanité, a réagi Maître Seban, l'un des avocats des familles interrogés par Le Parisien. Fin de citation. Malgré tout, la justice se dit sûre qu'aucun tueur en série n'a été impliqué dans ces disparitions et meurtres et que les meurtres n'avaient pas de lien. Bien sûr. Même si ce n'est pas le cas pour tous, il est assez clair que les similitudes apparaissent entre certains de ces 12 dossiers. Pour la presse de l'époque non plus, ces affaires n'avaient aucun lien, à part peut-être l'impunité du tueur et la maigreur des dossiers d'enquête. On n'en revient pas qu'autant d'enfants aussi jeunes puissent disparaître et être massacrés en France dans un si petit périmètre sans que la justice ne débloque des moyens suffisants pour faire cesser l'épidémie de meurtres et d'enlèvements de mineurs. Il est incroyable qu'on ne trouve un coupable qu'aujourd'hui, suite à la lutte d'un cabinet d'avocats. Une dizaine de ces meurtres, disparitions ou même l'agression de Grégory Dubrulle reste irrésolue. Depuis, en tout cas, on n'entend plus parler d'affaires similaires dans cette région.